comment vous appelez-vous déjà ?
Elle avait dit, c'est moi.
Françoise Hardy.
Oui.
Franchement, qui êtes-vous ?
Françoise Dutroux Hardy, Françoise Hardy.
Comme vous me connaissez bien. Comment
te dire-t-on ? Qui est Françoise Hardy ?
Dans 10 ans, Françoise Hardy sera encore Françoise Hardy.
Bon, alors dites-moi qui je suis.
Françoise Hardy sur une scène, pour quand ?
3-4 ans à peu près.
C'est une femme qui apparaît, qui disparaît, d'ailleurs avec une espèce de magie.
Je ne m'en rends pas compte.
Les médias francophones publics présentent...
Françoise Hardy.
Comment te dire Hardy ?
Françoise Hardy.
Une série en 9 épisodes de Didier Varro.
Voici donc...
Françoise Hardy.
J'aime les chansons tristes.
Ça veut dire que vous êtes triste ?
Non.
En dehors de la chanson, il y a d'autres choses que vous aimez dans la vie ?
Oh, c'est sûr, il n'y a que ça qui me plaise pour le moment, puis j'ai pas le temps pour autre chose.
Vous aimez sortir, danser avec des copains ?
Je sors très rarement.
Pourquoi ? Vous n'aimez pas sortir ?
J'ai jamais eu l'occasion de tellement sortir.
Vous donnez l'impression d'être plutôt le genre solitaire ?
Oui.
On est bien peu de choses. Et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On met bien peu de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête. Et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses. C'est mon amie la rose qui l'a dit hier matin.
Je voulais faire des disques, donc j'avais réalisé mon rêve et le reste m'a emporté d'une certaine manière, hein, sans même que je le veuille, sans que je m'en rende compte. Bon, c'est maintenant que je le réalise beaucoup plus qu'à l'époque. Je ne savais même pas combien de disques je vendais. On ne savait pas ça. Franchement, je ne me rendais pas compte. Moi, bizarrement, un souvenir qui me revient, c'est de voir une affichette de Paris Match au kiosque. Et c'était une affichette de moi en cape. J'avais une espèce de cape plus ou moins écossaise. Et donc, je portais des collants noirs et des petits escarpins. Donc, on voyait cette affichette un peu partout. C'est de ça que je me souviens, quoi. Parce que c'est vrai, quand on voit ça partout, on a l'impression quand même qu'il se passe quelque chose.
Les jeunes vont de plus en plus vite, et ceci n'est pas un conte de fées. Devenir à 18 ans une vedette du disque, une vedette plus vendue que la Calas alors qu'il y a 6 mois elle n'était encore qu'une timide étudiante en langue allemande, telle est l'aventure vécue par Françoise Hardy. Elle rêvait bien sûr des lauriers d'Elvis Presley, mais comment expliquer ces 270 000 disques vendus ? La réponse, il faut la chercher chez ses clients nouveaux que sont les moins de 18 ans, qui ont leur mode bien à eux et qui imposent leur goût et leur vedette. Écoutez-la, regardez-les, vous comprendrez.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de Pardieu.
Ils sont des milliers à acheter leurs disques. Ils sont des centaines à enregistrer ces mêmes disques.
Et les yeux dans les yeux.
Les premiers qui ont fait du rock une des grandes attractions de leur vie, on les a appelés les copains. Les seconds qui vendent leur talent aux autres, ce sont les idoles.
Oui, mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime.
Comment te dire hardi ? Une série de Didier Varro, épisode 2. Le temps de l'amour.
Être yéyé ou ne pas être yéyé ? Telle est la question que tout le monde se pose. En ce début des années 60, le débat fait rage entre les gardiens du temple d'une certaine idée du music hall et les nouveaux seigneurs de ce que l'on ne tarde pas à appeler le showbiz. D'un côté, il y a ce grand directeur artistique, Jacques Canetti, patron du cabaret Les Trois Baudets, qui lança Jacques Brel, Georges Brassens, Serge Gainsbourg et tant d'autres, et qui pensait qu'il fallait faire ses preuves par la scène et la sueur. De l'autre, il y a Eddie Barclay, mais aussi Claude Carrère et Johnny Stark, des producteurs qui jouent au Colonel Parker et qui croient dur comme fer que ce nouveau mouvement yéyé est l'avenir de l'industrie musicale qui se met en place. Nouveaux chercheurs d'or, ces producteurs inventent le marketing sur le disque et cherchent à recruter des jeunes garçons et des jeunes filles à peine entrés dans l'adolescence et qui, en quelques minutes, peuvent prétendre à la célébrité sur des chansons adaptées le plus sommairement possible des grands tubes anglo-américains. Au cœur de ce contexte, un phénomène marquant. L'émission de radio « Salut les copains » sur Europe numéro 1, lancée en 1959 et qui, dès le début des années 60, devient l'organe officiel de cette révolution de velours que le courant yéyé propage. Avec son journal officiel mensuel « Salut les copains » qui devient le bréviaire de tous les adolescents en quête d'émancipation. Au centre de cette histoire en marche, un événement. Le 22 juin 1963, entre 150 000 et 200 000 jeunes se retrouvent Place de la Nation, à Paris, pour un concert gratuit à l'occasion du premier anniversaire du magazine Salut les copains. Au programme, les Gams, Daniel Gérard, Franck Alamour, Richard Anthony, Les Chaussettes Noires, Les Chats Sauvages, Sylvie Vartan et Johnny Hallyday. Le monde afflue Place de la Nation, la police est dépassée et le service d'ordre est vite débordé. Dans un article paru dans le journal Le Monde, le sociologue Edgar Morin rend compte de ce concert et baptise ces jeunes les yéyés. Par extension, yéyé désigne donc aussi un phénomène sociologique. Françoise Hardy, fidèle à sa réputation et à son caractère singulier, interroge légitimement celles et ceux qui l'écoutent quant à son appartenance au mouvement dont elle paraît si naturellement issue.
Évidemment qu'elle faisait partie du courant yéyé.
Marc Maréchal, ami de Françoise Hardy.
Elle faisait la une, comme les autres, de Salut les copains, cette radio concurrente, toutes les semaines ou presque. Enfin, oui, elle faisait partie de la vague yéyé. Le plus qu'elle avait par rapport à tous les autres, c'était une espèce de classe folle qu'elle avait comme ça. À chaque fois qu'elle chantait, à chaque fois qu'on la voyait, elle avait une image absolument hallucinante. Elle était d'une beauté d'abord hallucinante. C'était d'une élégance folle, quoi, par rapport... Alors, moi, j'aimais beaucoup Sylvie Vartan, si j'en étais dingue. Mais Sylvie, elle avait un côté plus... Et même Sheila, elles avaient un côté plus popu, on va dire. Elle avait ce truc en plus qui faisait que... On avait l'impression d'être plus intelligent quand on entendait ses chansons. C'était plus doux, c'était plus romantique, je sais pas. Il y avait quelque chose comme ça qui faisait qu'elle était quand même à part.
Françoise, c'était pas une yéyé.
Dominique Blanc-Francard, réalisateur artistique.
Et je pense qu'elle avait le talent de son écriture, de son style de voix, et qu'en même temps, à l'époque où tous les yéyés, effectivement, chantaient un peu n'importe quoi et s'agitaient avec des guitares, ça mettait une sorte de paix qui passait dans la chanson, un peu un ovni de l'époque. Et tout le monde, en fait, je pense, était amoureux d'elle à cette période-là, parce que c'était la seule fille qui chantait en français avec un tel talent d'écriture. Et quand on a 16-17 ans, qu'on entend quelqu'un qui chante une chanson qui vous parle et qui vous émeut, on aimerait la rencontrer, discuter, enfin comme tous les ados. La fascination qu'elle exerce, c'est probablement par son personnage, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est quand même un peu insaisissable. On a beaucoup de mal à comprendre ou à explorer ce qu'elle peut penser réellement. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un d'attirant parce que c'est mystérieux.
À
Alors le mouvement yéyé m'a super surpris.
Vali, productrice radio.
Quand je suis arrivée en France et j'ai entendu certaines chansons de tous ces gens, même Claude François, il y avait Sylvie, il y avait Sheila, Johnny, tous ces gens-là, et je me suis rendu compte que ces chansons-là, c'est des chansons avec lesquelles j'ai grandi. Tous les tubes que j'ai écoutés dans les années 60, même si j'étais très jeune, j'avais des frères et sœurs beaucoup plus âgés que moi, à la radio, je me dis, qu'est-ce que c'est? Les gens extasent sur un morceau que je connais par cœur et on est combien d'années après? Donc ça m'a vraiment assez sidérée. Et je me suis aperçue avec Françoise Hardy, quand je réécoute, j'ai dit, voilà, celle-là, elle a écrit ses propres textes, qui écrit la musique, qui c'est pas signé Bacharach ou je ne sais qui c'est, c'est vraiment elle.
Moi, je suis né en 81, donc sa carrière était déjà entamée depuis quelques années, voire deux décennies.
Pierre Lapointe, auteur, compositeur, interprète.
Et j'avais bien sûr entendu tous les garçons et les filles de mon âge. À la radio, souvent, au Québec, parce que cette chanson-là, c'est vraiment international, dans le sens où partout dans la francophonie, cette chanson-là, c'est vraiment comme un grand, grand classique, même chez nous. Et je suis tombé sur une cassette, début 90, et je suis tombé sur « Mon ami La Rose » et « La maison où j'ai grandi ». De l'époque yéyé, il y a peu d'artistes qui ont réussi à passer à travers toutes les décennies en restant toujours cohérents autour d'à peu près les mêmes thèmes tout le temps. C'est la mélancolie, c'est la tristesse, c'est la mort, c'est l'éphémère. C'est un peu une existentialiste, ouais, pop, Françoise Hardy. C'est ça pour moi.
Vous savez qu'elle va pas être contente, mais j'ai adoré quand elle avait elle a fait une petite faute de français dans une chanson.
Alain Souchon.
Au lieu de dire « c'est à l'amour que je pense », elle disait « c'est à l'amour auquel je pense », qui est une faute de français. Et alors j'adorais, c'est comme si elle avait eu une petite coquetterie dans un œil d'une fille très belle, qui a une légère coquetterie sur la lèvre, ou là, ça la gêne considérablement, et en même temps, nous, ça nous ravit, nous les garçons.
Lorsque sa bouche à mon oreille vient murmurer mille mots tendres, mille merveilles, mille secrets.
C'est à l'amour auquel je pense
et que j'espère et que j'attends.
C'était tellement mignon la musique en même temps et tout. Alors j'adorais ça. Oui, avec toujours quelque chose de romantique et d'un peu évanescent, avec de l'écho sur sa voix. Ah, c'était bien. Et puis elle faisait ça avec élégance. Je suis un fan de Françoise. Hein. Je suis toujours.
C'est à l'amour auquel je songe. Je me demande à ce moment. S'il n'existe que dans les songes ou bien vraiment.
J'ai une anecdote assez drôle sur l'arrivée de Françoise Hardy dans le métier à l'automne 62.
Jean-Pierre Pasqualini, journaliste.
Quand elle va faire, pour les élections législatives 62, qui ont lieu en novembre 62, sa première télé avec tous les garçons et les filles. C'était très long et on mettait plein de chanteurs pour accompagner les résultats. Donc il y avait Clo-Clo qui était là pour Belle 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 aussi. Et tous les gens du métier se sont jetés sur Françoise Hardy et personne a regardé Claude François de la soirée qui était très triste de n'avoir marqué personne avec son Belle Belle Belle. Alors que tout le métier avait trouvé une fraîcheur. Elle a tout de suite eu le métier, les professionnels avec elle. Elle avait de la mélancolie et c'est vrai qu'on a senti une profondeur chez elle tout de suite.
La première fois où elle m'est apparue à la télévision, je crois que j'arrivais d'Amérique.
Maurice Chevalier, l'homme toujours affublé d'un canotier, d'une canne et d'un nœud papillon, reste pour beaucoup de Français l'incarnation même d'une certaine idée de la tradition dans le musical français. Il est encore au début des années 60 le modèle joyeux et fantaisiste pour le public américain d'une certaine gouaille et d'une certaine idée de l'élégance française et parisienne. Et c'est lui, ce monstre sacré, qui adoube Françoise Hardy.
Tout d'un coup, j'ai fait connaissance avec Françoise Hardy, que je ne connaissais pas du tout, qui chantait en premier plan une chanson très douce, avec un visage, mais un visage que j'appelle moins un visage à foule, parce qu'il y a des visages qui accrochent la foule, mm-hmm. parce que ce sont des visages particuliers et qui ont une beauté particulière et une force particulière. Et je me rappelle que dès qu'elle a eu terminé, j'ai dit, vous avez vu la gosse qui vient de passer? Elle est sensationnelle, j'ai dit. Elle a un visage extraordinaire, elle chante avec un calme et une grâce des chansons jolies, une charmante voix. C'est une gosse qui va faire une révélation et ça n'a pas raté. C'est ce qui est arrivé deux jours après, toute la France en parlait.
Eh bien, mes amis, vous allez être particulièrement gâtés aujourd'hui puisque nous avons rendez-vous avec Françoise Hardy. Françoise est une jeune personne tellement occupée qu'elle n'a pas pu nous recevoir chez elle, mais nous allons la retrouver dans sa loge à l'Olympia. Est-ce que c'est votre vrai nom d'abord ?
Bien sûr, oui.
Vous êtes plutôt une calme dans la vie.
Oh oui, non, mais enfin, c'est surtout parce que mes chansons sont lentes, enfin, se prêtent pas à des...
Oui, mais enfin, quand vous faites des pas sur la scène, vous n'y tenez pas tellement.
J'y tiens pas tellement parce que je sais pas tellement. Si je savais, certainement, j'aimerais ça. On a envie quand on sait aussi.
Le 1er novembre 1963, Françoise Hardy est interviewée à la radio à la veille de son premier Olympia, où elle partage la scène avec Richard Anthony pour un musicorama organisé par Europe numéro 1. Normalement, un premier Olympia, cela vous marque à vie. Mais Françoise Hardy a déjà des difficultés avec l'idée d'être sur scène. Son rêve est d'écrire des chansons, de les enregistrer, mais elle ne comprend pas forcément cette finalité obligée de les transposer sur scène. Elle avoue alors ne se souvenir que d'une chose bizarre, étrange pour ce premier Olympia.
Je m'en souviens à cause de la présence de Sylvie Vartan, qui était là avec son petit chapeau. Je ne me rappelle que de ce que Sylvie a eu pendant ce musicorama des moments excessivement douloureux. Je ne me rappelle que de ça. Moi, j'aimais beaucoup Sylvie Vartan, j'aime toujours beaucoup d'ailleurs. Je la trouvais en plus très 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 jolie. Et j'aimais bien ses chansons. Il y avait des chansons que j'aurais aimé chanter, que lui composait son frère, Eddie Vartan.
Sylvie Vartan, elle a 18 ans, elle aussi. Son frère était chef d'orchestre. On cherchait une chanteuse, il a dit « Pourquoi pas ma sœur ?» Sylvie a chanté, ça a marché. Alors, elle a quitté le lycée. Est-ce qu'elle le regrette ?
Non, je ne regrette pas d'avoir abandonné le lycée, mais ce que je regrette, c'est de ne pas avoir pu faire ma philo.
Vous avez un petit peu un côté désabusé, non ?
Oh non, pas du tout. Il ne faut pas exagérer quand même.
Tous mes copains, quand je les vois passer, tous mes copains m'aiment bien.
Elle était et elle avait tout ce que je n'étais pas et tout ce que je n'avais pas. Parce que moi, je la trouvais formidable sur scène. Elle savait se mettre en valeur, elle savait danser, elle savait bouger. Elle avait des chansons que j'aimais beaucoup. Elle représentait une jeune fille que j'aurais aimé être et à laquelle, si elle avait eu ma grand-mère, jamais ma grand-mère n'aurait pu dire « Tu ne plairas à aucun garçon ». Voilà, c'était la jeune fille, la jeune femme sexy qui plaisait aux jeunes gens.
Pour moi, Françoise, Sylvie et Sheila ont influencé la France.
Jean-Pierre Pasqualini, journaliste.
On a vu dans les rues fleurir des tas de gamines qui ressemblaient à l'une ou à l'autre. Pour moi, il y avait la grande sœur idéale qui était Sheila, toujours enthousiaste, toujours souriante, en permanence punchy, dynamique. D'autres qui étaient peut-être un peu plus réservés, un petit peu plus mélancoliques, se sont dit, ben nous, on n'a pas toute cette énergie, mais on pourra peut-être réussir parce qu'on ressemble à une fille qui réussit, qui s'appelle Françoise Hardy, et on s'identifie à cette fille qui est peut-être plus sur la réserve. Et puis Sylvie, c'était la sensualité. Je ne sais pas si Françoise Hardy, Sylvie Vartan et Sheila ont correspondu à trois types de jeunes françaises ou si elles ont créé trois types de jeunes françaises.
SLC, salut les copains.
Jolie petite Sheila, jolie petite Sheila, ce nom que tu m'as donné. Tout au fond de mon cœur, je le garderai toujours, je te le promets.
Je crois que c'est Françoise, est la première artiste que j'ai rencontrée dans un studio.
SLC, salut les copains.
Sheila.
Je venais de sortir Jolie Petite Sheila et je pense que c'était une de mes premières interviews et je suis rentrée et elle sortait. Et alors pour moi, voir Françoise Hardy, c'était comme si je voyais le Messie, quoi, quand même. Parce que elle était déjà en télévision, c'était déjà quelqu'un qui avait un succès puisqu'elle a démarré avant moi. Alors, à la fois, j'étais très gênée, à la fois, j'avais très envie d'aller lui parler. Je suis quand même quelqu'un de timide, donc j'ai pas osé. Et après, j'ai dit, mais merde, elle m'a pas dit bonjour. Ce que j'ai pas réalisé, c'est qu'en réalité, évidemment, elle ne me connaissait pas du tout. Elle représentait, en plus, à cette époque-là, un côté un peu un télo, un peu... Bon, moi, je sortais d'un milieu de commerçante, chose comme ça. C'est, pour moi, c'était plutôt l'étudiante, plutôt celle qui va en faculté, qui... elle représentait pas l'école communale. Voilà, c'était celle qui fait des études. Puis surtout, ça, on l'entendait toute la journée sur la radio. Je veux dire, ça n'a l'air de rien, mais quand on est extérieur et qu'on entend une chanson tout le temps, qu'on la connaît par cœur à force de l'entendre, voilà, ça vous fait un choc de l'image que vous voyez en télé ou que vous voyez sur un magazine, de croiser cette personne-là, c'est très étrange.
Beaucoup de mes amis sont venus des nuages.
Elle a vécu par rapport à moi ce que moi j'ai vécu par rapport à Sylvie. Parce que Sylvie avait débuté avant moi. Je l'avais vue passer une fois en compagnie de Daniel Filipacchi. J'étais très impressionnée du simple fait qu'elle était connue. Vous voyez, il y avait des choses à l'époque, on était tellement jeunes, tellement naïves. Le fait d'avoir débuté à peu près en même temps, Sheila, Sylvie et moi, ça nous liait, qu'on le veuille ou non. C'est vrai qu'il y a un côté... Curieusement, je suis un peu plus proche de Sheila aujourd'hui que je ne le suis de Sylvie, parce que Sylvie, elle est souvent aux États-Unis, elle fait beaucoup de choses encore. Sheila est un peu plus disponible, et dans tous ces derniers mois où j'ai vécu des choses pas croyables, Sheila s'est montrée vraiment très, très, très amicale. Vraiment, moi, ça me touche beaucoup. Ça.
Et toi aussi, tu viendras. À repartir au fin fond des nuages et de nouveau sourire à bien d'autres visages, donner autour de toi un peu de ta tendresse lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse.
J'ai toujours eu une attirance pour Françoise. J'ai adoré Sylvie, hein, mais j'ai jamais eu les rapports que j'ai eus avec Françoise. On a fait des séances de photos avec Jean-Marie, toutes les trois. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu un rapport avec Françoise et un respect, un chercher à comprendre que je n'ai pas eu avec Sylvie. Alors, Sylvie, il faut dire aussi qu'à notre époque, parce que les gens aujourd'hui ne le savent pas, mais c'était des équipes malgré tout qui étaient quand même très en compétition. Sylvie et moi, on a tapé un peu dans les mêmes choses. Françoise, elle ne chantait pas les mêmes choses que nous. J'ai toujours aimé Françoise.
À ton bois. Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages, la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Alors ils viennent se chauffer chez moi. Et toi, repartir au fin fond des nuages et de nouveau sourire à bien d'autres visages, donner autour de toi un peu de ta tendresse lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse. Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne, il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne, j'oublierai à la fois mes larmes et les peines.
L'amitié, dans ce début des années 60, se lie aussi à travers l'impressionnant livre de photos souvenirs que Jean-Marie Perrier va offrir à toute une génération. Photographe d'une époque, d'une jeunesse indomptée et insouciante, éprise de rêves américains et pourtant foncièrement attachée à l'idée d'une élégance française. Jean-Marie Perrier est celui qui a contribué à donner une incarnation à la vie de ses idoles qui parfois ne savaient pas ce qu'ils vivaient. Ce mélange d'innocence et de beauté non maîtrisée a forgé la légende de ces années 60. Françoise Hardy détestait se faire photographier et elle n'avait aucune conscience de sa beauté. Jean-Marie Perrier tombe fou amoureux de son modèle tout de suite. Pour la première séance photo, ils se sont retrouvés tous les deux, très timides, marchant dans Paris, sans se dire un mot.
Comment te dire, Hardy ? Une série de Didier Varro pour les médias francophones publics.
On a eu assez rapidement une relation sentimentale, amoureuse. Et donc, il n'y avait que ça qui occupait ma pensée. Le reste, je planais complètement. Il fallait faire beaucoup de choses. Il fallait faire des photos tout le temps, des interviews, des choses comme ça. Il fallait se déplacer aussi beaucoup. Donc, je me rappelle assez mal de tout ça parce qu'en fait, ma préoccupation majeure, c'était ma vie sentimentale, le fait que moi, comme je devais me déplacer très souvent et que Jean-Marie se déplaçait beaucoup, beaucoup aussi, donc on se voyait pas assez, donc j'étais très malheureuse. Et la seule façon d'être un peu moins malheureuse, c'était quand j'étais dans une chambre d'hôtel, ce qui m'arrivait donc beaucoup trop souvent, d'essayer de faire une chanson en rapport avec mes manques.
La photo du siècle, pas moi. C'est Jean-Marie Perrier qui l'a prise. Devant son objectif, 47 copains. Toutes les idoles yéyées. Terrible!
Aujourd'hui, Françoise, vous ne nous recevez pas chez vous, mais disons presque dans un studio de photographe, et ce studio appartient à Jean-Marie Perrier. Mais Françoise, comment est-il comme réalisateur, Jean-Marie Perrier?
Moi, très bien.
Moi, j'ai beaucoup, comme tout le monde, hein, beaucoup travaillé avec Jean-Marie, et à l'époque, ils étaient ensemble.
C'est là.
Ils ne juraient que par Françoise, quand même. Vous ne pouviez pas faire une séance de photos sans que Jean-Marie vous parle de Françoise. Non, mais attends, il était bananas de Françoise. C'était la plus belle du monde, la plus... Jean-Marie est quelqu'un qui a encensé Françoise, enfin un amoureux quoi, mais un vrai, avec tout ce que ça représentait, il faisait attention à elle, il lui avait donné un surnom, je me rappelle plus, je sais pas, c'était pas ma princesse, mais il avait pas besoin de l'idéaliser, c'était un idéal Françoise quand même, de par son côté difficile d'approche, je pense que c'est ce qu'elle dégageait Françoise. Françoise c'était pas quelqu'un sur qui on allait taper sur l'épaule, hein. Pas du tout. Et pas parce qu'elle était antipathique, loin de là. Mais parce qu'elle était très renfermée, très timide et je crois pas aussi sûre d'elle qu'on voulait bien le croire.
Non seulement Jean-Marie Perrier a construit une image à Françoise Hardy, mais il l'a surcotée par rapport à ses ventes.
Jean-Pierre Pasqualini, journaliste.
Sheila vendait beaucoup, beaucoup plus que Françoise Hardy. Mais quand vous regardez Salut les copains, vous n'avez pas cette impression-là. Qu'est-ce qui se serait passé si Jean-Marie Perrier n'avait pas été amoureux de cette fille qui lui ressemblait? Parce que lui aussi a eu des problèmes avec son papa. Donc ça les a sûrement rapprochés. C'était deux gamins perdus. Même si Jean-Marie Perrier était aidé par Philippe Aki et tout ça, je pense qu'il a retrouvé une fille qui avait peut-être un peu les mêmes fêlures que lui. Et dans Salut les copains, elle a pris une place que ses 45 tours marchent ou ne marchent pas. Elle était toujours, elle avait le nombre de couvertures annuelles équivalent à Sylvie ou à Sheila. Et surtout qu'ils ont été ensemble dans les années les plus importantes, 62-66. C'est là où ça s'est décidé, l'impact sociologique de Françoise. Il a été là pour accompagner ça. Quelles sont les deux chanteuses qu'il a foutues dans une basse-cour en bécassine? C'est Sylvie et Sheila. C'est quand même... il a beaucoup dû se marrer. Mais en tout cas, c'est pas Françoise qui s'y est collée quoi, dans la basse-cour en bécassine. Hein. Françoise, elle était avec Mick Jagger en photo quand même. Hein.
En plus de ce son merveilleux, il y avait ce physique qui était aussi magnifique, quoi. C'était une très belle fille. Hein. Et voilà, j'étais un peu subjugué.
Étienne Dao,
qui a une photogénie qui a été une addition supplémentaire à son talent, à ce qu'elle a apporté au niveau artistique. C'est un peu la totale, en fait. Elle avait tout pour captiver, et puis en plus une attitude un peu rebelle malgré tout, pas forcément très sympathique, pas forcément faisant des efforts pour sourire, pour se rendre agréable, étant beaucoup dans l'auto-dépréciation. Donc c'est comme si elle se foutait des bâtons dans les roues d'une certaine manière pour dire non, ce que vous voyez, c'est pas du tout aussi bien, ce que vous entendez, c'est pas aussi bien que ça en a l'air. Et c'est, ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup interrogé, son auto-dépréciation perpétuelle. Enfin, moi je l'ai toujours entendu dire des choses très négatives à son sujet.
Jean-Marie, et ça, encore maintenant, je trouve ça vraiment formidable. Il s'intéressait à ce que je faisais. C'était lui. Moi, j'avais toujours envie de dire non à tout, parce que j'avais pas envie de partir, j'avais pas envie de le quitter. Et je me disais, enfin, si on part tous les deux, ben, on se verra jamais. Et c'est évidemment ce qui s'est produit quand même. Et mais lui me disait non, tu peux pas refuser ça, c'est important pour toi, etc. Il avait une espèce d'intégrité par rapport à ça, ou un côté un peu Pygmalion. Puis il me donnait des avis, quand, si par exemple j'achetais un vêtement, il me disait tout de suite « Ah, ça va pas du tout, ne porte plus jamais ça ou... ». Puis moi je lui faisais confiance en tout. Il était mon aîné, pas de beaucoup, mais il venait d'une famille tellement différente de la mienne, quoi. Moi je venais de rien du tout, et lui il venait d'une grande famille. Il avait côtoyé tous les artistes, les acteurs, actrices possibles, imaginables et tout ça, et ça m'impressionnait beaucoup.
Après leur musique, voici qu'ils imposent des mini-jupes.
Les pantalons bizarres et la mini-jupe, s'ils ont conquis les rues de Londres, font aussi des ravages ailleurs dans le monde.
Ce devait être un modèle pour n'importe quelle jeune femme de son âge.
Messia, auteur, compositeur, interprète.
Quand je regarde aujourd'hui les scopitones de Françoise Hardy dans ces années-là, c'est quand même un canon de beauté qui s'ignore. Ceux qui ajoutent à son charme, à cette espèce d'élégance comme ça qui se balade nonchalamment, cette silhouette fine, ce visage parfait. Et puis c'est une époque, c'est un style, c'est une famille d'artistes, c'est des photos en noir et blanc, c'est de l'argentique. Enfin, je veux dire, ça va avec une époque, voilà. Et je pense que cette époque-là a marqué très fort les générations suivantes, dont la mienne encore aujourd'hui.
Alors, le style de Françoise Hardy me plaît beaucoup, le style mode.
Vali, productrice radio.
D'abord, évidemment, elle est maigre comme un clou, donc elle peut porter n'importe quoi, ça va bien avec ses cheveux. Même aujourd'hui, je la trouve extrêmement belle. Ce qui me plaît chez Françoise Hardy et la beauté, c'est less is more. C'est vraiment, on n'en fait pas trop, on n'a pas besoin. Je veux dire, c'est les lignes claires. C'est quelqu'un qui aime bien des choses structurées. Paco Rabanne, c'était très structuré. Courrèges, qu'est-ce qui est le plus structuré? Et ça va aller très bien avec son physique.
Quand je suis allée voir André Courrèges, j'avais vu que le style des vêtements très novateurs qu'il faisait était un style qui correspondait à ma morphologie difficile à habiller. Quand on a une morphologie un petit peu trop androgyne, on est quand même difficile à habiller. Et je voyais les tenues de Courrèges, je m'étais dit, mais ça, c'est le rêve pour moi. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis qu'en effet, quand je vois des photos, il n'y en a pas eu beaucoup de moi et de la tenue de scène que j'ai eue finalement, de lui, je me dis, mais cette tenue de scène, elle est plus moderne encore aujourd'hui qu'elle n'était à l'époque. Je me souviens que j'ai étrenné une tenue de Paco Rabanne qui était une espèce de combinaison métallique et excessivement lourde. Je l'ai étrenée au Savoy et je me souviens évidemment de cette tenue parce que... Elle pesait 16 kilos, c'est quand même lourd. Et alors, elle me blessait, parce que c'était des pièces métalliques qui n'étaient pas collées les unes aux autres. Donc, les pièces me blessaient sous les bras. Je saignais sous les bras et tout. Puis, je n'arrivais pas à marcher avec elle. Mais j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Il avait beaucoup de goût. Il avait un sens esthétique très, très développé. On peut dire que, comparativement à Courrèges, ces deux-là, étaient révolutionnaires, parce qu'ils amenaient vraiment quelque chose de totalement différent de tout ce qu'on avait déjà vu.
J'avais fait beaucoup de robes de métal, des robes de plastique, des robes dans des matières nouvelles, qui avaient assez secoué l'opinion des années 60.
Paco Rabanne, couturier.
Et Françoise Hardy représentait déjà pour nous, les jeunes de l'époque, la jeune fille moderne, elle était presque en opposition avec l'autre figure mythique des années 60 de la beauté féminine, c'était Brigitte Bardot. Pour nous, Hardy, Françoise Hardy était vraiment un mythe de la femme contemporaine, un peu garçonnière, un peu libre de mouvement, libre d'action, avec son visage un peu coupé, comme ça, angle vif, cette coiffure stricte, ce corps très long, presque masculin un petit peu, et vraiment, quand elle est venue me voir, j'étais ébloui.
Quelquefois, quand je vois ces photos ou ces petits films, etc., j'ai l'air quand même relativement à l'aise, relativement. Mais ça ne devait pas m'enchanter au-delà de tout. Qu'est-ce qui m'enchantait au-delà de tout ? C'était quand j'avais réussi une chanson, mais c'était surtout quand je retrouvais mon amoureux. C'était surtout ça. Il faut toujours se rappeler qu'on était dans les années 60, que les jeunes filles de cette époque n'étaient pas du tout comme les jeunes filles d'aujourd'hui. Elles n'étaient pas très délurées. Bien sûr, il y en avait qui l'étaient plus que d'autres. Mais moi, je l'étais plutôt moins que d'autres. Et donc, à partir du moment où j'avais la chance que quelqu'un... Parce qu'il était vraiment très... Enfin, j'allais dire, j'aime pas ce qualificatif. Je suis sûre que si jamais il tombe sur cette émission, il va en avoir horreur. Mais il était vraiment très mignon, hein, quand je vois les photos de cette époque. Et disons qu'il était très séduisant. Moi, ma vocation, c'était de... Enfin, c'était un grand mot, mais je vais l'employer quand même. De sublimer mes tourments intérieurs grâce à des textes et des mélodies de chansons. Étant donné la relation que j'ai eue avec Jean-Marie... si difficile, où les séparations étaient beaucoup plus fréquentes, étaient trop fréquentes, cette relation m'a vraiment inspiré beaucoup, beaucoup de chansons. De toute manière, moi, toute ma vie personnelle est dans mes chansons.
Tu commences ta vie tout au bord d'un ruisseau. Tu vécus de ces bruits qui courent dans les roseaux, qui monte des chemins, que filtrent les taillis, les ailes du moulin, les cloches de midi, soulignent d'un sourire la chanson d'un oiseau. Tu prenais du plaisir à faire tes ronds dans l'eau. Aujourd'hui tu ballottes dans des eaux moins tranquilles, tu t'acharnes et tu flottes, mais l'amour où est-il? L'ambition avait loin, l'ambition est un culte, tu voudrais que ta voix domine le tumulte. Tu voudrais que l'on t'aime un peu comme un héros, mais qui saurait quand même faire des ronds dans l'eau.
Mmh.
cheveux dans ton dos. Dis-toi qu'il pourrait bien, devant tes ronds dans l'eau, te prendre pour l'idiot, l'idiot de ton village, qui lui est resté là, pour faire des ronds dans l'eau, pour faire.
En 1967 paraît l'album Ma jeunesse fout le camp, avec entre autres cette magnifique chanson signée Pierre Barou pour les paroles, Raymond Le Sénéchal pour la musique, qui a signé en tant que compositeur plusieurs BO de films, dont Château en Suède en 1963, avec à l'affiche entre autres une certaine Françoise Hardy. Mais c'est aussi l'occasion pour Françoise de s'offrir avec cette chanson une collaboration avec le producteur anglais Charles Blackwell aux arrangements.
Comment te dire Hardy, une série de Didier Varro pour les médias francophones publics.
C'est en Angleterre qu'on m'a fait sentir que, enfin, les Anglais me percevaient vraiment, c'était pas mes chansons qui les intéressaient. C'était moi, ce que je dégageais, le fait que je représente la mode française dans ce qu'elle avait à l'époque de plus futuriste, de plus avant-garde. Évidemment, c'était... Quand Mick Jagger a dit dans une interview qu'il avait donnée pour Mademoiselle H. Tendre, que je représente... Enfin, je suppose qu'il l'avait dit parce que c'était une revue destinée aux jeunes filles françaises, et donc que son idéal féminin, c'était moi. Donc alors là, oh, je me suis dit, oh là là. Cette phrase-là me sortait de l'image de petite jeune fille naïve au physique ingrat. D'un seul coup, je me voyais autrement. C'est-à-dire, je me voyais un petit peu avec ses yeux.
Le yéyé est inconnu à Londres et l'on ne s'occupe pas de Johnny, Claude, Françoise ou Sylvie.
À Londres, nous rencontrons maintenant les Rolling Stones.
Les Rolling Stones ne se laissent pas interviewer. On a l'impression qu'ils se cachent.
Pour moi, la terre promise, c'était de me balader dans une rue d'un quartier de Londres où on achetait, où il y avait plein de boutiques où on achetait les boots qui étaient à la mode à cette époque-là, et de tomber nez à nez avec Mick Jagger qui vous adressait un sourire absolument ensorcelant. C'était, enfin, moi, j'aurais voulu mourir à ce moment-là. Non, mais c'était ça. Il a fallu me battre véritablement pour obtenir d'aller enregistrer en Angleterre. L'état d'esprit de la maison Vogue, c'était ça a marché avec quatre mauvais musiciens, on reste avec quatre mauvais musiciens. C'était ça l'état d'esprit. Non, non, les musiciens, les orchestrateurs français ne pouvaient pas se débarrasser de l'influence classique. Et il flanquait des flûtes partout, des instruments qui n'étaient pas du tout dans la tonalité, dans le climat pop-rock. Et ils en mettaient trop, ils mettaient trop de choses. Alors que justement, ce qui me plaisait en Angleterre et aux États-Unis, dans les chansons de ces pays-là, c'est que c'était aéré. Il n'y avait pas trop de choses et c'était d'une grande efficacité.
C'est au milieu des années 60 où elle s'est un petit peu décalée du... Elle a commencé à enregistrer à Londres, elle a chanté en anglais.
Marc Maréchal, attaché de presse et ami de Françoise Hardy.
Il y avait un côté plus rock'n'roll, quoi, on va dire, toutes ces photos avec Mick Jagger et autres. Elle avait un côté beaucoup plus branché que les autres. Même si elle ne devait pas le ressentir comme ça à l'époque, mais elle était décalée par rapport à tout le monde, mais plus au milieu des années 60, quoi, plus vers 65, 66. Donc là, elle échappait tout d'un coup à ce milieu yéyé, un peu franchouillard comme ça, où elle était beaucoup plus européenne, on va dire.
Si je dois vraiment choisir, je dirais
Thomas Dutronc.
Entre 65 et 73, plutôt à partir de la moitié des années 60. Enfin, moi j'adore Messages personnels évidemment, mais la quintessence du bonheur pour moi, enfin c'est quand même plus les années 60 quand elle, je crois que c'était un Anglais qui s'appelait Blackwell. Mmh. Avec des cordes magnifiques, enfin voilà, je trouve que les arrangements là ça sonne et c'est des chansons, pour moi c'est des classiques, enfin c'est un bonheur pour moi d'écouter ça. Je sais pas pourquoi, je suis plus fan de cette couleur 60s.
À l'étranger, donc je rencontre beaucoup de musiciens étrangers qui sont véritablement fascinés par son œuvre et par ce qu'elle a apporté de très français. C'est une manière d'écrire qui est à la fois simple et littéraire. S'il m'arrive d'entendre une chanson à la radio quand je suis à Londres par exemple, je vois à quel point c'est français. Et je pense que le public anglais, anglo-saxon et même étranger réalise à quel point c'est différent. Il y a un côté exotique, différent et français. Je pense que d'ailleurs c'est pour ça que son rayonnement est si important aujourd'hui. C'est parce que elle n'a pas été ce genre d'artiste qui a fait des reprises de standards étrangers. Elle a véritablement bâti une œuvre et construit quelque chose de très français parce qu'elle a écrit ses chansons et que même si elle a été inspirée par des artistes anglo-saxons et qu'elle a enregistré dans les années 60 en Angleterre, ce qui a amené une addition justement, quelque chose d'un petit peu particulier avec les arrangements de Charles Blackwell qui sont très très justes. Je crois qu'il a compris ses chansons et qu'il les a entourées, il les a arrangées d'une manière très juste. Ça sonne encore très bien et c'est toujours très délicat, jamais de trucs pompiers ou d'arrangements un peu putassiers pour séduire, ça marche toujours.
Françoise Hardy, c'est comme les Eiffel Tower. C'est-à-dire, je pense que ce qui plaît aux garçons, tous ces gens, Dylan, Mick Jagger, David Bowie, Blur, qui était beaucoup, c'était vraiment, ça peut être ses enfants. Peut-être c'est ce qui plaît chez Françoise Hardy, c'est comme le Tour Eiffel exactement. C'est cette dame, cette structure. D'ailleurs, on peut comparer leur physique. Je veux dire, tous les deux minces, tous les deux très symétriques comme ça. Et je pense que c'est peut-être aussi cette froideur qu'elle a, qui est peut-être, on a envie de plonger dedans pour dire qu'est-ce qui fait tilter cette femme. Et en plus, elle était très belle. Donc, il y avait une fantasme de tout. Est-ce que ça va être moi qui va percer cette mystère? Et même les garçons comme Blur, ils ont fait une chanson avec elle, un morceau sur Park Life, si je me trompe pas. Magnifique. Et je crois que c'est un fantasme on peut pas éteindre. Nobody feels any pain
tonight as I stand inside the rain. J'ai tout de suite apprécié Bob Dylan. Et je l'écoutais énormément. Et puis il a donné son premier concert l'été 66. Il était beaucoup moins beau que sur la photo de sa pochette. Il avait l'air malade, quoi. Il était très, très, très maigre. Et puis, là, c'était pas bien ce qu'il a fait sur scène. C'était faux, en partie. C'était vraiment pas ce qu'on espérait voir ni entendre. Et donc, l'entracte a duré très longtemps et les gens ont commencé à manifester et puis ils n'étaient pas contents non plus de ce qu'ils avaient vu. Et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vient vers moi et des coulisses et me dit « Bon, il ne veut pas remonter sur scène si vous n'allez pas le voir. » Alors, c'était le monde à l'envers. Et donc, je suis allée le voir. Je crois que la deuxième partie n'a pas été plus réjouissante que la première. Et on s'est retrouvés dans la suite de Bob Dylan à l'hôtel George V. Et Bob Dylan me demande de venir le rejoindre dans sa chambre. Il m'a simplement fait entendre deux chansons. Il y avait Just Like a Woman, qui est une de mes chansons préférées de lui. Et puis l'autre, c'était I Want You. Ce n'est qu'en rédigeant mon autobiographie. Je me suis dit, 40 ans après, 50 ans après, je me suis dit, mais est-ce qu'il me mettait cette chanson exprès parce qu'il y avait un message dedans, I Want You? Je n'en sais rien et je n'oserais pas l'affirmer.
Je pense que tout de suite, y a vraiment la sensation que c'est une icône de mode. Elle est tout de suite différente de toute façon de toutes les autres artistes françaises et même étrangères.
Étienne Dao.
Il y a beaucoup de filles qui ont essayé de la copier. Enfin, qui, je pense à Carly Simon qui me l'a dit, ou à Marianne Faithfull qui me l'a dit. Ce sont des artistes qui voulaient lui ressembler. Enfin, ça représentait véritablement quelque chose pour elle. Elle commence au même moment, mais on s'aperçoit tout de suite qu'elle n'est pas Yéyé. D'abord parce que le répertoire est complètement différent. Il y a une espèce de mélancolie. Elle est un peu ailleurs déjà.
Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses. Je vois des roses dans un jardin, là où vivaient des arbres maintenant. La ville est là, et la maison, les fleurs que j'aimais tant, n'existent plus. Ils savaient rire, tous mes amis, ils savaient si bien partager mes jeux. Mais tout doit finir pourtant dans la vie, et j'ai dû partir les larmes aux yeux. Mes amis me demandaient pourquoi pleurer. Découvrir le monde vaut mieux que rester. Tu trouveras toutes les choses qu'ici on ne voit pas.
Présentée et concoctée par Didier Varro, coproduite par les médias francophones publics. À la réalisation incroyablement hardie, Fanny Beauhuon. À la préparation tout aussi hardie, Juliette Accius. À la programmation musicale forcément hardie, Thierry Dupin et Romain Couturier. Avec les archives et les pépites sonores tout en hardie de Lina, et avec un remerciement évidemment hardi et tendre à la fois, pour sa bienveillance, sa disponibilité, son humour et tous ses si beaux souvenirs à Françoise Hardy.